Bonjour Pierre Payou, professeur Pierre Payou, vous êtes responsable du service de médecine nucléaire au CHU de Toulouse, chercheur et directeur de l'unité TONIC Toulouse Neuro Imagery Center, donc INSERM, unité INSERM. Et donc vous allez nous parler ces 20 dernières années des nouvelles techniques qui nous permettent de mieux comprendre, de mieux voir ce qui se passe à l'intérieur de notre cerveau et du coup de mieux comprendre cette maladie d'Alzheimer.
Merci beaucoup. Je voudrais remercier très chaleureusement d'abord la Fondation Recherche Alzheimer pour nous permettre d'expliquer où nous en sommes, où nous allons. Je voudrais remercier également la municipalité. Et puis ces échanges sont toujours très importants pour nous chercheurs et pour ces échanges avec le grand public. Je voudrais remercier également M. Dubois et puis M. Vélas qui ont introduit le mot amyloïde environ 27 fois dans leur discours. Donc on va faire de l'imagerie. Maintenant vous savez tout de l'amyloïde. Donc ça va me faciliter la tâche grandement. Donc c'est un travail d'équipe, hein, ce genre de choses. Le sujet, c'était les lésions. Peut-on les voir? Donc on va parler un petit peu vision. Et puis donc vous avez les hôpitaux, vous avez signé. Puis bien sûr tous les gens qui sont pas présents. Alors l'imagerie et l'homme. Alors l'imagerie, c'est quelque chose qui est finalement très ancien. Genre je suis remonté à mes dernières vacances, hein, la grotte Chauvet, Ardèche Sud. C'est 36 000 ans. Alors en 36 000 ans, vous avez un exemple typique d'imagerie. Alors les spécialistes, ils voient des lionnes, on voit très bien les lionnes ici, là. Enfin, vous avouerez que moi, je ne l'ai pas vu tout de suite, mes enfants non plus. Donc clairement, il faut quand même commencer à décoder. Et c'est donc un des premiers principes de l'imagerie, il faut la décoder. Là, c'est une image directe, on imagine le peintre, il y a 36 000 ans, en train de peindre sa grotte. Et puis on peut faire des choses un peu plus compliquées en imagerie. Et vous avez cet autre exemple d'image. Alors on ne voit pas très bien, mais on voit très bien sur l'écran. Je ne sais pas si vous devinez ici, en fait, en ombre, hein, une main. Et en fait, c'est une technique donc archaïque qui consiste à souffler un pigment. Et donc, ce que vous ne voyez pas, c'est la main directement. Ce que vous voyez, c'est ce qui a été arrêté par la main. Vous voyez que l'imagerie, c'est des images qui sont construites. Et en fonction de la technique d'acquisition, on peut voir telle ou telle autre chose. Et c'est très important pour l'imagerie 36 000 ans après. Donc, bon, là, on compte l'histoire. Vous voyez M. Simpson, là, qui a un cerveau, certes, mais qui a un cerveau avec une imagerie, mais qui est multiple. On va vous parler de morphologie. On va vous parler, pourquoi pas, et Bruno Dubois, on a montré un exemple d'électroencéphalographie, de l'électricité, fonctionnement électrique du cerveau. Et puis, on peut descendre à de l'imagerie qui est dite moléculaire, avec du fonctionnement cérébral, voire des neurotransmetteurs. Donc, on peut descendre à des strates extrêmement précises. Alors, on parle maintenant d'imagerie moléculaire pour aller explorer ces différents cerveaux. Donc morphologie fonctionnelle, on n'a pas le temps aujourd'hui de détailler ces techniques, mais sachez qu'elles sont en pleine expansion. Alors là, c'est un cours qu'on fait aux étudiants de pharmacie et de médecine. Hein. On leur montre les techniques, ce que ça montre. Parce qu'une image, elle n'est pas magique, elle est créée par quelque chose. Alors l'IRM, eh ben, c'est des ondes magnétiques. Je vois en fait de l'imagerie du proton. Je vois en fait l'hydrogène dans mon cerveau. C'est ça l'IRM, c'est du signal magnétique. La médecine nucléaire, c'est des photons gamma. J'enregistre la radioactivité des gens. La radiologie, c'est des photons X. Un petit peu comme mon homme de Cro-Magnon là, qui soufflait sur la main. Eh bien, je vois par image les rayons qui ont été arrêtés. Et puis l'échographie, hein, qui est un autre exemple, où on voit de l'écho, donc du son, qui est répercuté ou pas par les tissus. Donc en fonction de ces différentes techniques, on va pouvoir explorer le corps humain de manière extrêmement peu invasive. Et donc voilà la première radio qui existait dans le monde. C'est M. Röntgen qui a développé ça, c'est des rayons X. Et là, vous voyez la main de Mme Röntgen. Hein, donc à l'époque, on portait des alliances quand on était mariés. Hein, on voit très bien. Alors c'est une image qui a été faite en une trentaine de minutes. Et on voit très très bien en fait ici hein, cette main. Alors aujourd'hui, on ne fait plus des radios en 30 minutes. Mais voilà, donc Mme Röntgen en 1985. On a fait des choses de plus en plus poussées. On a fait de la scintigraphie avec des choses bizarres comme le mercure. Et puis en 1977, ce que vous voyez, c'est la première IRM qu'on a pu faire. Alors là, c'est une IRM du thorax. Il faut faire confiance aux radiologues de l'époque. Hein. Ça, c'est quelque chose comme le cœur. Et puis ça doit être des côtes. Hein, voyez. Donc, il était temps qu'on fasse des progrès pour voir le cerveau de manière plus précise. C'est ce qui a été fait. Donc voilà les premières images de médecine nucléaire de cerveau. Et puis donc, je ne détaille pas, mais imaginez bien qu'on a fait de gros progrès. Voilà une IRM, on va en reparler. Et puis l'IRM, eh ben, on sait faire plusieurs séquences maintenant. On sait faire de l'IRM fonctionnel. On est capable, non pas de voir comment pensent les gens, mais comment fonctionnent les réseaux neuronaux des gens. Et puis, on peut faire des choses beaucoup plus compliquées, des cartographies. Hein, voilà. Et avec tous ces outils, la question était de dire, mais peut-on voir la maladie d'Alzheimer? Et Bruno Dubois faisait remarquer, ce n'est pas parce qu'on voit une lésion que c'est une maladie d'Alzheimer. C'est juste une lésion. Voilà. Alors, les premières machines dont je voudrais vous parler, c'est l'imagerie par résonance magnétique. Donc, ceux qui sont passés dans une IRM, ce qu'ils retiennent en pratique, c'est que c'est serré. Et deuxièmement, ça fait du bruit. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, vous mettez un champ magnétique entre deux membranes. Et ça, ça porte un nom, hein, ça s'appelle un haut-parleur. Donc, il faut y penser parce que quand on explore nos patients, eh ben, il faut les prévenir que c'est serré. Donc, la claustrophobie est un vrai problème. Et deuxièmement, eh ben, que ça va durer un petit peu longtemps, que ça va faire beaucoup de bruit. Donc, vous avez un exemple hein, ici. Donc, ça, c'est l'image. C'est une IRM qui est dédiée recherche dans l'unité tonique. Vous avez typiquement ce qu'on est capable de faire. Vous reconnaissez ici les globes oculaires. Ça, c'est une image horizontale. Ça, c'est une image de face. Et puis, ça, c'est une image de profil. Vous voyez, on a des résolutions qui sont en dessous du millimètre. Donc, on fait de l'imagerie très précise en termes de résolution spatiale. On descend en dessous du millimètre largement aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'est l'imagerie. Alors, est-ce que ça peut nous aider lorsqu'on explore une maladie d'Alzheimer ? Alors, l'idée, c'est que dans une maladie d'Alzheimer, vous avez une mort neuronale. Le cerveau souffre et les cellules qui composent le cerveau vont mourir. Et on a donc une atrophie cérébrale. Et donc, il y a des moyens purement de mesure géométrique. Hein. On va prendre cette petite région-là qui est au parti du lobe du temporal interne, ça c'est le lobe temporal dans la partie interne, il y a une petite région qui s'appelle l'hippocampe ici, et on a mesuré en fait ces différents paramètres, hein, la taille de l'hippocampe, on va mesurer la largeur de cette fissure qui est ici, et on va faire des scores. Et ces scores, hein, ces scores, ça s'appelle les scores de Shelton, ça va de 0, absence d'anomalie, il n'y en a aucune anomalie, et puis ici, vous avez l'anomalie qui est majeure. Et donc vous êtes capable de dire, non pas, il y a une maladie d'Alzheimer, mais cette partie du cerveau est très atrophiée. Et oui, effectivement, ça correspond souvent à une maladie d'Alzheimer. Mais il faut être très prudent, et nous sommes très prudents, ce n'est pas sur une simple IRM qu'on affirme qu'il y a une maladie d'Alzheimer. Il fallait d'autres arguments. Alors voilà un exemple typique d'évolution. Hein. Voilà quelqu'un qui est strictement, qui n'a pas d'atteinte, et quelqu'un qui a une atteinte, vous voyez, qui est sévère avec, vous voyez ici, cette hippocampe qui est joufflue, là, hein, et puis là, une disparition quasi complète de l'hippocampe. Donc ça, c'était une méthode, certes peu spécifique, mais d'accès relativement aisé. Et puis, on est allé un petit peu plus loin. On s'est dit, écoutez, on peut faire des mesures automatiques. Vous savez qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Et on est allé mesurer des cerveaux. Et là, vous avez ici cette courbe. Voilà ce qui se passe à 20 ans. Hein, Bruno Velas, tout à l'heure, parlait d'escalier. L'escalier, vous voyez, notre cerveau, il suit l'escalier. Hein. Voilà des sujets donc, qui sont normaux. Progressivement, l'épaisseur du cerveau va diminuer. L'épaisseur corticale disparaît. Et on va avoir une diminution, mais qui est complètement physiologique. Et nos patients Alzheimer, regardez-les ici, ils ont une atteinte qui est plus marquée que les sujets normaux. Donc l'atrophie cérébrale, on s'en doutait, chez les sujets Alzheimer, sont plus marquées. Donc on peut mesurer hein, l'épaisseur corticale, et peut mesurer tous les ans. On pourrait s'amuser, si mes collègues neurologues et gériatres m'envoyaient des patients, je pourrais mesurer tous les 6 mois leur épaisseur corticale et voir s'il y a un effet des interventions. C'est ce qui a été fait en quelques années. Et puis il faut revenir quand même aux fondamentaux de la maladie d'Alzheimer. Donc vous avez cette dame, la madame Auguste Deter, qui a 51 ans, qui est une patiente de monsieur Alois Alzheimer, qui est vu le 4 novembre 1907 pour une démence. Alors, une démence, à l'époque, il n'avait pas de nom, hein, mais une démence qui était quand même précoce, hein, 51 ans. Elle va décéder. Il y aura une analyse de son cerveau par monsieur Alois Alzheimer, qui va publier en 1911, hein, il a mis un peu de temps à publier, donc ce qu'il a vu. Il a vu ceci, des dégénérescences neurofibrillaires. Et là, on commence à rentrer dans le vif de la maladie, dans la spécificité de la maladie. On est en train de voir, mais il a fallu attendre le décès de la personne, il a fallu voir des lésions spécifiques de la maladie d'Alzheimer. Et on les connaît, hein, les lésions. C'est les plaques amyloïdes, alors CF, ce qui vient d'être présenté avant mon topo, et puis les gérescences neurofibrillaires. Et donc l'idée de la médecine nucléaire, c'est d'aller dire, je vais aller cibler de manière très spécifique ces lésions. Je vais les cibler, et oui, on est arrivé, on les a ciblées. Alors avant, pendant un certain temps, on s'est dit comment aller avoir ces traceurs, hein, la fameuse A-bêta et éthophosphoto. Et bien, vous avez une solution qui est plus ou moins simple, je dis plus ou moins simple parce que des fois c'est difficile, des fois c'est facile, et d'aller faire une petite piqûre dans le dos. Alors pour ceux qui ont la piqûre, des fois c'est pas une petite piqûre, hein, mais c'est une petite piqûre, et d'aller mesurer en fait ces fameux scores bêta, taux et puis phosphoto, et puis de faire un score. Donc soit on a typiquement une atteinte, un profil anormal, soit tout est normal. Et puis, dans un certain nombre de cas, on ne sait pas, il y a un profil intermédiaire, on dit que c'est discordant. Là, je vous parle de la ponction lombaire et je n'ai pas le temps de vous parler de la prise de sang, qui est un débat qui nous agite depuis une vingtaine d'années avec le professeur Velas. Mais nous verrons, si une fois de plus, vous avez raison, si dans 5 ans, on fera des prises de sang très facilement. Aujourd'hui, je ne parlerai que de la ponction lombaire. Alors, la ponction lombaire, donc, je ne vous fais pas tout l'historique depuis les années 90, et je vais m'intéresser à ce qui se fait tout récemment et ce que vous pouvez avoir comme examen, ce qu'on peut proposer comme examen en routine clinique. Alors, la routine clinique, c'est ça aujourd'hui, hein, c'est une tomographie par émission de positon, ça c'est la caméra TEP du CHU de Toulouse, et donc l'idée est très simple, c'est une machine ici qui va enregistrer la radioactivité dans le cerveau. La radioactivité, comment on l'y met ? On va fixer, on va prendre un traceur spécifique, ces fameux traceurs dont on a vu quelques images. Et tout ça, on le doit au premier plan cancer, le plan de M. Chirac, c'était en 2004, qui a fait le plan cancer. Donc là, vous voyez un magnifique leucémie, un lymphome malin non-Hodgkinien, avec, vous voyez, malheureusement, ces lésions cancéreuses. Et puis quand on regarde, ici, vous voyez le cerveau. Pourquoi ? Parce qu'on utilise du sucre radioactif, et le sucre radioactif, il va où on consomme du sucre. Et le cerveau sain, consomme beaucoup de sucre. Et donc on est allé voir, en fait, chez les patients, est-ce que dans les maladies d'Alzheimer, donc vous avez ici des sujets qui ont une maladie d'Alzheimer un peu plus marquée, hein, on commence à 27, 21 et puis 13, donc quelqu'un qui a une maladie d'Alzheimer qui est très évoluée, on se rend compte que comme le neurone est malade, il ne consomme plus de sucre, donc on a une atteinte qui est marquée. La réponse n'est pas « c'est une maladie d'Alzheimer », la réponse, ça va être « cet endroit du cerveau consomme moins de sucre. » Donc on a le moyen quand même de mesurer le fonctionnement cérébral de manière relativement faible. Mais là, mes collègues neurologues et gériatres me disaient « mais nous, on voudrait une cible beaucoup plus spécifique. » Donc je reviens à M. Alzheimer en 1911 qui dit « il y a des lésions spécifiques. » Et une des lésions spécifiques, je ne reviens pas dessus, c'est l'amyloïde. Et l'amyloïde, on a su la marquer. On a su la marquer dans les premiers articles, vous voyez, datent de 2004, hein. Et on a pu montrer, vous avez ici un sujet normal, et quand on injecte des traceurs des plaques amyloïdes, ben on se rend compte que les sujets Alzheimer, ils ont beaucoup de dépôts amyloïdes. Donc on avait montré un traceur spécifique des plaques amyloïdes qui nous sert aujourd'hui, hein, Bruno Dubois vous montre des exemples d'études, hein, ce fameux score centiloïde que vous avez vu sur les trois derniers médicaments, c'est une mesure de l'activité amyloïde du cerveau. Donc voilà, je remontre de façon... didactique, en fait, ce qu'on nous a déjà montré, c'est qu'on est capable de mesurer différents biomarqueurs. L'IRM, la voilà. Hein. Ici, on est malade. Progressivement, ces biomarqueurs, ils évoluent. Et donc, on va avoir, au final, on va avoir, voyez, le TEP amyloïde qui, de manière très précoce, va montrer qu'il y a une anomalie de charge amyloïde chez le patient avant même que le patient soit malade, cette fameuse stade présymptomatique où peut-être les traitements seraient efficaces. Alors, est-ce que c'est compliqué à faire ? Non. On injecte environ deux fois la radioactivité naturelle, parisienne ou toulousaine, c'est la même radioactivité. Ce n'est pas tout à fait le cas à Clermont-Ferrand et en Corse, mais voilà. On attend 90 minutes et on fait une image qui dure 20 minutes et vous avez un résultat qui dit dépôt d'amyloïde, pas de dépôt amyloïde. Vous voyez, on donne cette réponse-là. Et on nous a montré des cas où les gens n'avaient pas de pathologie Alzheimer, mais des dépôts amyloïdes, donc il faut être prudent sur l'interprétation de ces images. Donc ça a été proposé à des associations d'urologues, de gériatres, de radiologues et surtout d'associations de malades Alzheimer. Et donc on a eu des recommandations, quand est-ce qu'on peut l'utiliser et quand est-ce qu'on peut ne pas l'utiliser ces outils. Donc forme atypique chez les sujets jeunes, pour faire court, et puis forme inappropriée. J'ai 60 ans, je veux emprunter pour m'acheter une maison. Si vous montez des plaques amyloïdes plein le cerveau, je crains que votre banquier vous dise que ça ne va pas être possible. Hein ? Voilà, donc on a cet outil qui pose à la fois un problème éthique, hein, puisqu'on peut être amyloïde positif avant toute maladie. Donc voir la plaque amyloïde, c'est poser ce problème éthique, dans ce sens-là. Donc, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Pourquoi je vous parle de ce traceur-là ? Parce que, vous voyez qu'on a une très bonne nouvelle, c'est qu'on avait différents traceurs qui avaient été régulièrement rejetés par nos institutions, et puis on a eu, tout récemment, hein, ça date du 8 juin 2022, on a eu l'autorisation d'utiliser ces traceurs amyloïdes en routine clinique. Alors ça date, vous voyez, du 8 juin 2022, et le décret d'utilisation devrait paraître au journal officiel à la fin du mois. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en routine clinique, on va pouvoir faire des images de TEP amyloïde, et ce ne sera pas réservé qu'à la recherche. Attention, quand est-ce qu'on pourra utiliser ces traceurs ? Chez les présentations cliniques atypiques ou un âge précoce, ou un diagnostic incertain. Donc, case neurologue gériatre avant tout, et ensuite, on pourra éventuellement proposer cet outil si la ponction lombaire n'est pas réalisable ou si elle donne un résultat incertain.
Voilà. Et cet outil peut être utilisé dans tous les centres qui font de la radiologie au niveau hospitalier ou dans tous les centres de ville ? Est-ce que c'est spécifique ? Est-ce que ça va être difficile ?
Alors, c'est une excellente question. Pour l'instant, le législateur, dans son infinie sagesse, recommande la prescription à des réunions concertation pluridisciplinaires spécialisées. Autrement dit, ce n'est pas tout à fait une radio de l'orteil. Donc, il faudra, par exemple, les CM2R, les centres mémoire, seront habilités à faire cette prescription. Alors, pour vous donner une idée, on va pouvoir commencer avec 4 examens de ce type par mois à Toulouse. Ce sera, je pense, la même chose à la pièce salpêtrière, parce que là, le fabricant ne peut pas de manière instantanée, mais bien évidemment, en fonction de la demande. Alors aujourd'hui, donc, vous avez vu, en juillet, on a eu la confirmation de la production clinique en juillet. On a actuellement 12 demandes du centre mémoire pour ce type d'examen, qui, je vous le rappelle, ne peut être réalisé qu'après une ponction lombaire, qui ne peut être réalisé ou non contributif.
Et c'est un examen coûteux ?
Alors, c'est la question qui vient juste après. Alors, c'est un examen, je vais vous dire le prix. Je viens de négocier le prix avec le laboratoire qui le fabrique. Laboratoire, c'est General Electric, hein, le même qui fait nos moteurs d'avion et nos ampoules. Donc, General Electric, par achat de 3, ça coûtera 1 300 €, mais qui est pris en charge complètement par l'État. Mais vous imaginez que tout individu de 55 ans ayant un TEP systématique amyloïde, c'est juste pas pensable. Et l'autre point qui est très important, c'est qu'en fait, on ne peut affirmer qu'il est pathologique que si en fait il est négatif. Si c'est négatif, vous éliminez la maladie d'Alzheimer. S'il est positif, vous ne pouvez pas dire que c'est pathologique. C'est très, très important. Hein. C'est-à-dire que le risque, ce serait qu'on ne passe pas par une filière experte de centre mémoire, qu'on ait une prescription, j'oublie mes clés 3 fois par jour, je veux un PET amyloïde. Et vous êtes positif, qu'est-ce que vous faites ? Donc vraiment, l'indication, je vous l'ai mise là, hein, ça veut dire que vous ne pourrez conclure sur cet examen que s'il est négatif, et ce que dit la littérature, s'il est négatif, ça ne peut pas être une maladie d'Alzheimer. C'est uniquement ça qu'il faut retenir. Comme le disait Bruno Dubois tout à l'heure, il y a des gens de 90 ans amyloïdes positifs qui n'ont aucun signe de maladie d'Alzheimer. Et donc il va falloir utiliser cet outil avec beaucoup, beaucoup de précautions. Il ne fait que dire, vous avez des plaques amyloïdes, point. Ou vous n'en avez pas. Voilà. J'en ai fini là sur ce rapide tour d'horizon de l'imagerie actuelle et pratique, puisqu'on a enfin ces molécules dans nos services.
Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous aviez imaginé qu'on était autant dans une actualité brûlante sur ce sujet, aussi bien du côté des médicaments que du côté de l'imagerie. J'ai une question. Les personnes qui sont de famille dans Alzheimer, avec beaucoup de personnes, des cas arrivés jeunes, etc., est-ce qu'on peut imaginer qu'à l'avenir, alors peut-être pas tout de suite parce que les choses sont en train de se mettre en place, qu'on produit le traceur spécifique, etc., etc., ce soit des personnes qui puissent bénéficier de ces techniques de repérage précoce ?
Alors, je vous le disais, c'est uniquement aujourd'hui de la recherche, c'est tout nouveau. Hein. Aujourd'hui, les formes génétiques de maladie d'Alzheimer bénéficient bien évidemment dans le cadre de la recherche. Je pense à la cohorte Diane-Tehu, mais il y en a d'autres, hein, où en fait, on sait qu'ils ont un modèle familial, et donc on leur a proposé, pour leur proposer des traitements très tôt, on leur a proposé ce type d'approche amyloïde. Et effectivement, ils sont ou pas amyloïdes positifs. En routine clinique, je laisse à mes confrères cliniciens la responsabilité d'une prescription.
Est-ce que vous pouvez repréciser ce que c'est qu'une forme familiale ? Parce que ce n'est pas parce que mon père ou mon grand-père a eu la maladie d'Alzheimer non. que je fais partie d'une forme familiale. Souvent, on est dans la confusion alors que c'est des critères beaucoup plus stricts.
Alors, on est bien d'accord. Hein. Typiquement, il faut qu'il y ait un diagnostic génétique qui est estimé à partir d'un prélèvement et d'une histoire. Malheureusement, cette maladie est tellement fréquente qu'on dit... Mon père là, ma mère là, ma grand-mère là, donc j'ai une maladie d'Alzheimer, donc je vais faire un PET amyloïde. Et je pourrais très bien avoir un PET amyloïde sans aucun rapport avec une forme familiale. Les formes familiales, elles sont référencées, les centres mémoire savent parfaitement comment les prendre en charge, et malheureusement, je vous le redis, cette maladie est tellement fréquente que c'est surtout pas parce que vous avez, c'est les formes les plus rares, les formes familiales, hein, c'est surtout pas parce que vous avez un ascendant qui est Alzheimer que vous l'êtes. Hein. C'est vraiment les formes les plus rares qui sont familiales.